13. Nous avons prononcé le mot terrible, dette. Les dettes de Balzac. Qu'il se rassure, ceux qui n'aiment pas plus que nous voir l'étoffe si délicate de la vie privée passer de main en main et de reliques qu'elle aurait dû rester pour tout le monde se transformer à force d'être touchée en un vil chiffon. Mais nous ne voyons pas le danger sérieux que court la mémoire d'un homme célèbre qui peut favoriser de la fortune à son entrée dans la vie des lettres et qui, visité par elle lorsqu'il lui reste encore de longues années à travailler, a, dans l'intervalle, éprouvé des secousses, des points d'arrêt, des coups de vent, des tempêtes, des déchirements et, parfois, des naufrages. Qu'y a-t-il de nouveau et d'humiliant dans ces caprices de la destinée ? N'est-ce pas là le chemin accidenté et pierreux, semé d'ornières, que parcoururent à peu près tous les grands esprits de tous les siècles ? Corneille, Bayle, Erasme, Diderot, pour ne citer que 4 noms sur 1000 noms, n'ont-ils pas été obligés de mesurer parfois l'huile rance de leurs lampes et de souffrir avec un sourire mélancolique les agressions en pleine rue de Monsieur Dimanche ? À qui en veut-on d'ailleurs ? Est-ce à l'homme de génie ou à la fortune, quand se produisent ces contrastes, ces chocs entre la fortune et l'homme de génie ? À qui revient le tort ? À qui le dommage ? À qui le reproche des contemporains ? À qui la colère de la postérité ? À la fortune ? À la fortune seule ? Qu'on laisse donc se vider un débat entre elle et le jury de la publicité. Ces fameuses dettes de Balzac, dont on s'est tant occupé, dont on accompagnait chaque pas de sa renommée, comme pour lui faire un cortège, dont on souriait tout bas quand on admirait le plus le merveilleux labeur de sa pensée, dont il entretenait lui-même tout le monde en France comme à l'étranger, dont il parlait à chacun, depuis le grand seigneur du faubourg Saint-Germain jusqu'à son jardinier des Jardis, et toujours avec une verve charmante, amusante, intarissable, ses dettes qui ont menacé un instant d'être aussi célèbres que ses œuvres, eh bien, ces étonnantes dettes, nous demandons-nous, ont-elles jamais existé ? Comique et profond mystère. Penchons-nous au bord de ce puits et voyons ce qu'il cache. Est-ce la vérité qui en sortira ou un immense éclat de rire ? À notre avis, de Balzac avait besoin de laisser croire et de faire croire qu'il avait des dettes, beaucoup de dettes, immensément de dettes. Un orgueil fort légitime et parfaitement raisonné l'obligeait, on va le comprendre, à encourager le plus possible cette inoffensive erreur, erreur répandue, grossie, exagérée par ses amis autant que par ses ennemis. Balzac, il faut le dire avec regret, mais il faut le dire, ne gagnait pas avec sa plume ces sommes folles dont on se plaisait à l'adorer comme une pagode de Bénarès. Sans doute, il produisait beaucoup, mais il convient de distinguer ici bien des choses pour comprendre comment ces productions réunies ne rapportaient pas des mines d'argent et des ballots de billets de banque. Disons d'abord que ses dernières années littéraires lui avaient valu des bénéfices sans proportion avec les années précédentes, et que celles-ci l'avaient de beaucoup emporté sur les premières années, fort peu lucratives. Ce qui appelle déjà une moyenne à établir. Ensuite, il importe de ne pas présenter comme également productive sa rédaction aux revues et sa rédaction aux journaux. Les parts à faire sont différentes. Sa collaboration aux revues, quoique honorablement rétribuée, ne lui rapportait qu'à raison de l'étendue des revues, toujours limitée à un petit nombre de feuilles. Sa collaboration aux journaux lui était beaucoup mieux payée, mais comme, par traité, il était obligé de supporter ses propres frais de correction, correction babylonienne, frais cyclopéens, les bénéfices venus de ce côté, quoique plus amples, se trouvaient à fin de compte, singulièrement limés, amincis et transparents. En sorte que les deux sources de ses revenus ne formaient pas, réunis, un bien large fleuve. Restait la vente des articles, nouvelles et romans, repris aux journaux pour être publiés en volume. Ici, autre mirage. Il fallait entendre 3000 francs quand les journaux parlaient de 30 000 francs comptés à Balzac par ses éditeurs. Or, toutes ces enflures, toutes ces hydropisies superposées ne composaient pas un embonpoint fort réel. le total réel donné chaque jour, chaque année, un démenti à chaque ligne du budget littéraire qu'on prêtait au grand écrivain. De compte fait, excepté deux ou trois bonnes fortunes, y en a-t-il eu trois, Balzac n'a jamais dû réaliser en moyenne plus de 10 ou 12 000 francs par an, même dans ses plus belles années. Ceci était à exposer, à éclaircir et à mettre hors de toute discussion. Or, Balzac, qui voulait lutter pied à pied, vanité puérile, avec M. Alexandre Dumas et M. de Lamartine, comme écrivain à millions, ne pouvait pas laisser croire, sans faire rougir son encre, qu'il n'amassait pas, lui aussi, avec ses livres, des sommes insensées. Et quels autres moyens que ceux que nous venons de dire aurait-il eu pour accréditer l'opinion qu'il était riche, qu'il avait comme ses rivaux la pierre philosophale au fond de son encrier? On avait bien parlé de certaines grandes dames lui glissant dans la main, un soir de bal masqué à l'opéra, un rouleau de billets de banque et disparaissant ensuite dans les frises. Mais qui avait jamais vu cette dame blanche et cet argent déguisé en pierrot? Non, Balzac aimait et caressait avec coquetterie, nous venons de dire pourquoi, le mensonge de cette fortune qu'auraient dû lui créer les livres et qu'en réalité, il ne lui avait pas créé du tout. C'était un faux riche, un pseudo-millionnaire. Balzac avait gagné tard et fort peu gagné. Son imagination ayant toujours été plus riche que sa caisse, il avait mis son imagination à la place de sa caisse et il tirait de là, sûr de ne jamais arriver à l'épuisement. Ne pouvant faire du bruit avec ses chevaux, ses voitures et ses hôtels, il en faisait par l'éternel moyen de comédie qu'il avait perfectionné du reste à ravir, par le moyen des dettes, ces fortes, ces proverbiales dettes que, pour notre part, nous faisons plus que mettre en doute. Depuis longtemps, de Balzac, qui était la prudence et l'économie même, avait déjà réglé un passé commercial dont il s'était dégagé avec sa probité ordinaire, qu'il continuait à parler de ce passé, que nous appelions, dans le sans-gêne de nos soirées au jardin, le déficit Kessner. Voilà le déficit Kessner qui revient sur l'eau, disions-nous dès qu'il ouvrait la bouche pour parler de sa maison d'imprimerie qu'il avait fondée dans les premières années de son installation à Paris et cause éternelle de sa ruine, prétendait-il. Cependant, comme il fallait, pour aider à la vraisemblance, que les dettes dont il se plaignait et se parait ne fussent pas tout à fait mythologiques, il en souffrait quelques-unes autour de lui, mais si burlesques, si bergamasques qu'elles étaient tout à fait impossibles. Ce fut un jour où, plus incrédule que les autres jours sur ses dettes factices, et que lui ayant dit « Allons donc, Balzac, vous êtes millionnaire, tout Paris prétend que vous possédez un million que vous cachez. »« Ah, je possède un million !» s'écria-t-il en me regardant, en me couvrant de la lumière de ses yeux solaires. « Ah, je cache un million ! Eh bien oui, je cache un million !» Et il ajouta « Dans un pot à beurre !» Je vois encore son doigt courbé en serre d'oiseau, indiquant l'orifice du pot à beurre où il avouait avoir enterré son million. Le caractère de ses dettes, on le voit, affectant de près et contre les lois ordinaires de la perspective, des formes plus vagues encore que loin, fuyant leur cadre à mesure qu'on essaye de les voir sous le véritable jour, nous sommes infiniment plus à l'aise pour en parler. D'ailleurs, nous le répétons, cette pruderie de vouloir qu'un homme célèbre n'ait pas eu de dette nous paraît relevée d'un ordre d'idées chevaleresques où nous enterrons toujours avec peine. Qu'on biaise sur ses vices, que l'on côtoie ses faiblesses d'esprit et de cœur quand elles ont été poussées hors des limites, nous l'admettrons volontiers, quoique nous ne voudrions pas faire un reproche trop vif à Racine d'avoir adoré la Champmêlée, à Mirabeau d'avoir passé des nuits nombreuses au jeu. Mais confier tout bas à l'oreille de l'histoire les dettes d'un homme illustre, de peur d'enflammer la joue de cette muse si solvable, plaisanterie. Du reste, quand cet homme les a payées, l'histoire n'a plus qu'à donner son reçu. Revenons à ces dettes de Balzac, autour desquelles nous avons tracé peut-être trop de circonvallations. Elles furent un instant si diverses, si multipliées, qu'elles finirent par porter atteinte à la quiétude champêtre dont il se proposait de jouir au jardin. La sonnette de la grille ne cessait pas d'être agitée. gris est ici une pure façon de parler, la porte des Jardis était une porte pleine, et aussi pleine, ma foi, que celle du bonhomme Grandet à Saumur. Cette sonnette, qu'on avait quelque raison d'appeler d'argent et dont j'entends encore vibrer les ondes pénétrantes au-dessus des arbres, était tenue dans un état de parfaite sonorité par le jardinier. Et nous allons dire dans quel but Balzac l'avait ainsi exigé. Il pensait que rien au monde ne décourage un créancier, si quelque chose peut le décourager, comme de ne trouver personne à qui parler, personne sur qui décharger sa colère, s'il est brutal. Personne sur qui décrocher ses épigrammes, s'il est mordant. De Balzac voulait enfin que les Jardis eussent tout à fait l'air d'être inhabités pour ceux qui s'y rendaient, de Paris et de Versailles ou des environs, dans des intentions suspectes de créance. La tactique était ingénieuse, mais elle n'était pas facile à exécuter dans une propriété assez découverte, composée de deux grands corps de logis, de plusieurs pavillons, habités par le jardinier, sa femme et ses enfants, visités quotidiennement par des curieux ou des amis. Et j'allais oublier le chien, un gros chien, dont la niche était placée à l'entrée, querelleur, hargneux, enfin un chien de campagne, un de ces chiens qu'on appelle bêtement Turc. Celui-là s'appelait Turc, qu'on juge s'il devait aboyer. Or, comment, selon les désirs et d'après les injonctions de Balzac, donner le change au créancier qui vient à pas de loup, sonne sournoisement et colle son oreille si subtile contre la porte, afin de savoir s'il a été entendu? Comment éteindre, étouffer instantanément tout bruit, toute agitation, afin de le convaincre qu'il s'est trompé, qu'il a pris un tombeau pour une maison? Eh bien, de Balzac y était parvenu. Une longue pratique l'avait rendu maître de son idée, et son idée réussissait presque toujours. Voici du reste comment, à cet égard, les choses se passaient au jardin. D'abord, on savait 5 ou 6 minutes après le passage du convoi à Paris que le créancier ne pouvait plus nous surprendre par sa présence enchanteresse. S'il ne s'était pas montré alors, les temps de menace étaient passés. Repos et confiance jusqu'au convoi suivant. Mais dès que le convoi suivant faisait entendre ses mugissements de Bucentaure, la vigilance domiciliaire augmentait sur tous les points de la propriété, vergers, prairies et potagers, la grande manœuvre était prête, prenez garde à vous. On sonne. Écoutons, ce ne peut être qu'un créancier. C'en est un. Chaque promeneur prévenu s'arrête, se plaque à l'arbre le plus voisin et demeure dans une immobilité complète. Il devient tronc. Apollon nous poursuit, nous voilà Daphné, charmant. Le jardinier se courbe sur sa bêche et ne remue plus. Le chien qui va aboyer est tiré par le cordon qui s'attache au collier. Il rentre son aboiement et s'aplatit sur la paille de sa niche. Il grogne. Mais il se tait sous le regard magnétique et impérieux de la femme ou des fils du jardinier, et derrière les jalousies vertes des croisées, Balzac et ses hôtes écoutent, avec des frémissements de crainte et de joie, les imprécations du créancier hors des murs. Magnifique blasphème qui se terminait invariablement par ces mots « Mais ils sont donc tous morts là-dedans !» Et, parbleu, oui, ils sont tous morts. Et voilà où l'on voulait en venir, le tour était fait, le créancier avait entrepris un voyage blanc. Puis le créancier s'en allait, puis nous écoutions le sable de la ruelle crier sous ses pieds adorés, puis nous le voyions herboriser la campagne jusqu'au moment du passage du convoi de Versailles pour Paris, puis le convoi enflammé partait. Alors, résurrection, les jalousies déployant leurs ailes s'ouvraient à la lumière, les promeneurs reprenaient leur forme primitive et continuaient leur rêverie, le jardinier sarclait de plus belle ses herbes, le chien aboyait à cœur joie aux poules de la basse-cour, et tout redevenait enfin heureux, libre, joyeux, content jusqu'au nouveau coup de sonnette qui ramenait de nouveau les mêmes événements et les mêmes crises émouvantes.